Bien, eh bien, bonsoir à tous. Merci d'être présents ici ce soir. Et puis merci beaucoup aussi à Pierre Ancrenin, qui est parmi nous ce soir. Et pour la petite histoire, en fait, Monsieur Ancrenin était invité aujourd'hui, cet après-midi, dans le cadre d'une opération qui s'appelle La science au cœur du métier. Il a fait un remarquable exposé donc à des jeunes cet après-midi sur son métier, sur ses recherches. Et ben, on profite hein, de sa présence cet après-midi pour continuer ce soir, où il va nous présenter en fait trois missions spatiales. La première qui va être RCHEL, qui est en train de se terminer. La seconde, alors je ne le dis pas forcément dans l'ordre, on verra. La seconde donc autour de Cassini et l'observation de Titan autour de Saturne. Et la troisième qui concernera donc une sonde européenne, Rosetta. Voilà. Alors à la fin de la conférence, n'hésitez pas à poser des questions, même peut-être pendant la conférence, hein, s'il y a des points à éclaircir. Vous levez le doigt comme à l'école, hein, et puis on échangera comme ça. Très bien. Donc je vous laisse la parole.
Merci beaucoup, Eric. C'est un moment de joie d'être parmi vous, puisque il se trouve que j'ai la chance de m'occuper d'un dispositif qui s'appelle Science à l'école, qui permet de fournir des équipements dans des collèges et lycées. Et c'est ainsi que j'ai rencontré à Niort l'année dernière des collègues qui m'ont demandé de venir présenter une soirée à l'occasion de cette venue pour examiner les travaux des jeunes du lycée, de plusieurs lycées professionnels qui nous ont été présentés cet après-midi et qui étaient à la fois très intéressants et très, très émouvants. Alors, le choix que nous avons fait ce soir, c'est de vous parler un petit peu de recherches très récentes avec des satellites qui ont été construits pour observer différents phénomènes dans notre système solaire, différents phénomènes dans la galaxie ou dans des galaxies lointaines. Et je vais essayer de vous montrer que ces travaux qui sont faits en collaboration internationale, ces travaux qui sont faits avec parfois des centaines de collègues étrangers, montrent que la science fondamentale, la science recherche, eh bien, est un ciment entre des cultures très différentes que l'on peut avoir, que ce soit en Europe, aux États-Unis, en Asie aussi, dans ces collaborations que nous avons. Donc, la première expérience que je vais vous décrire, c'est ce qui se passe actuellement avec une sonde très particulière qui s'appelle Cassini. Cassini a été un des grands astronomes de l'Observatoire de Paris. Il y a eu une lignée d'ailleurs de Cassini, de descendants Cassini, et il a participé effectivement à la découverte d'un certain nombre d'objets du système solaire avec des lunettes à l'Observatoire de Paris. Et on a donné le nom d'une sonde qui a atterri à la surface de la lune de Saturne qui s'appelle Titan. Cette lune de Saturne est une lune très très particulière parce qu'elle est énorme. Elle fait 5 700 km de diamètre. Elle a une masse volumique qui est plus faible que celle de la Terre, c'est-à-dire qu'elle est essentiellement formée de glace, mais surtout, elle a une atmosphère très dense. Et cette atmosphère comprend de l'azote, N2, du méthane, CH4, ce méthane que vous utilisez comme gaz dans les bouteilles ou dans le gaz de ville pour vos gazinières, et puis un tout petit peu d'argon. Et c'est le reflet de ce qu'était l'atmosphère primordiale lors de la formation du système solaire tel que nous le connaissons. Donc Saturne gazeuse, avec encore beaucoup d'hydrogène, d'hélium, d'hydrogène moléculaire, Jupiter de la même manière, ayant conservé cette trace initiale des molécules légères, Titan les ayant perdues parce que sa gravité était plus faible, mais ayant conservé des composants initiaux. Et l'un des grands mystères que nous avons, c'est que ces composants initiaux, eh bien, ils auraient dû disparaître par l'interaction du Soleil avec ces molécules. Quand vous laissez des molécules de méthane illuminées par le soleil, elles se transforment et au bout de quelques centaines de millions d'années, vous n'avez plus de méthane. Et en fait, nous en trouvons beaucoup. Alors, ce qui nous a amené à nous intéresser à Titan, c'était le fait qu'il était prévu une mer de la taille de la Méditerranée avec du méthane liquide à l'équateur de Titan. Les observations radar faites avec le grand radar d'Arecibo semblaient montrer qu'on avait des échos correspondant à une surface plate, liquide, de méthane. On avait même une bosse blanche qui apparaissait. On pensait que c'était un iceberg ou une montagne chargée de neige de méthane que l'on pouvait voir. Les observations optiques directes sont difficiles parce qu'il y a beaucoup d'aérosols, donc des particules solides dans l'atmosphère de Titan, et que ces particules, eh bien, elles empêchent le rayonnement visible direct de pénétrer à la surface de Titan. Alors, nous avions, nous, radioastronomes, moi je suis plutôt spécialiste de molécules, molécules interstellaires, j'ai participé à la découverte d'un certain nombre de molécules dans le milieu interstellaire, dans des galaxies proches, d'isotopes, l'isotope 17 de l'oxygène avec la molécule CO. Eh bien, nous avions proposé que nous puissions observer Titan, où il semblait qu'il y ait des molécules primordiales, prébiologiques, dans cette atmosphère. Et la proposition a été très bien reçu par le CNES, par l'Agence spatiale européenne, par la NASA, mais il n'y avait pas d'argent pour financer cet instrument. On a même été classé premier et il n'y avait pas d'argent. Donc on nous a dit, ben écoutez, faites une proposition pour que vous puissiez être accepté sur la sonde. Et la proposition que j'ai faite avec deux collègues américains était de dire, nous allons essayer sur cette mer Méditerranée qui est autour de Titan, autour de l'équateur de Titan, nous allons essayer de voir si nous pouvons établir une échelle de Beaufort, c'est-à-dire une relation entre la hauteur des vagues qu'il doit y avoir sur un liquide et la force du vent qui est donc responsable de la génération des vagues à cette, sur la surface de ce liquide. Alors nous allons commencer avec la descente de la sonde Huygens, que l'Europe a construite, qui a été larguée le 24 décembre 2004 de la sonde Cassini, qui s'est approchée donc de Titan, puis qui s'est déposée avec une succession de parachutes pour ralentir sa chute et arriver à atterrir sur le sol de Titan. Donc les quelques premières minutes vont vous montrer cette nuit absolument fabuleuse, avec l'utilisation d'images réelles, hein, tout ce que vous allez voir sont des images réelles qui ont été évidemment remises en séquence les unes avec les autres pour pouvoir trouver ce que nous allons avoir comme mystère à la surface de Titan.
Le Soleil et Saturne, opposition si parfaite qu'elle a lieu peut-être deux fois par millénaire. Pendant ce temps, la sonde Huygens entre tout doucement dans le système saturnien au terme d'un long voyage de 7 ans. Alors que Huygens s'approche de Saturne, les planètes internes apparaissent regroupées autour du lointain Soleil. Saturne apparaît presque aussi grande qu'Orion. Quelques-unes des lunes de Saturne sont visibles, comme des points blancs alignés sur les anneaux de Saturne, tandis que Titan, sa plus grande lune, est déjà bien visible. Huygens a pour objectif Titan, monde mystérieux, plus grand que la planète Mercure et couvert d'une épaisse atmosphère orangée. Jamais on n'a vu les détails de sa surface. La vitesse de Huygens s'accroît jusqu'à près de 6 km par seconde et le disque de Titan éclipse rapidement Saturne et ses autres lunes plus rapprochées. Quand la sonde entre dans l'atmosphère de Titan, le bouclier réduit la vitesse par 15 en quelques minutes. Le parachute principal réduit encore la vitesse. 15 minutes plus tard, le petit parachute stabilisateur permet d'abord une descente plus rapide, mais ralentit Huygens à mesure qu'elle pénètre dans les couches les plus basses et les plus denses de l'atmosphère. Huygens s'approche d'une vallée sombre, entre des régions de collines plus brillantes. Au-delà des collines à gauche, apparaissent deux lignes parallèles sombres qui se révéleront faire partie d'un vaste système de dunes disséminées sur toute la surface de la Lune. À 21 km d'altitude, la sonde traverse une fine couche de brume, comme on le voit à l'horizon. La région brillante en haut au centre est la lueur de la brume de Titan illuminée par le Soleil. On aperçoit un réseau compliqué de canaux de drainage de quelques centaines de mètres de large et de plusieurs kilomètres de long qui balafrent le flanc de la colline. C'est probablement le résultat des ruissellements suite aux pluies de méthane. Des images stéréo révèlent que les collines à gauche font à peu près quelques centaines de mètres de haut, alors que les détails du relief de la vallée semblent faire quelques dizaines de mètres de haut. Pendant une grande partie de la descente, la sonde dérive vers l'est au-dessus de la surface de Titan, alors qu'en dessous de 7 km d'altitude, le mouvement s'inverse en un mouvement vers l'ouest, puis à nouveau vers 1 km d'altitude, la sonde repart dans la direction sud-est. Accrochez-vous. Huygens atterrit sur la surface de Titan, près d'un affleurement de glace d'eau. Une autre vue, dans la direction ouest de la descente, depuis l'altitude de 31 km, montre la zone de Titan que la sonde vient de survoler. On y a une bonne vue des canaux de drainage et de ce qui semble être un rivage. D'autres plaines sombres apparaissent, ainsi que des crêtes déchiquetées et percées de trous sur la gauche. Des caractéristiques spectrales de la surface suggèrent que les zones claires sont de la glace d'eau. Les zones plus sombres sont un mélange de différents hydrocarbures qui n'ont jamais été produits en laboratoire. Le petit point blanc au centre en bas de l'image montre la trace de la trajectoire au-dessus de la surface de Titan. On peut voir le changement de direction à 7 km d'altitude et on survole la crête de colline près de laquelle nous allons atterrir. À mesure qu'on approche de la surface, la topographie se dessine. Bien qu'il y ait des rivières et un rivage, on voit nettement un bassin asséché. Plus bas apparaissent des signes distincts d'érosion qui façonnent la ligne de crête déchiquetée. Huygens s'enfonce dans une de ses cuvettes. L'atterrissage a lieu en douceur à la surface de Titan. La vue de la surface est stupéfiante, tellement ce lit de rivière asséché entouré de collines de quelques mètres de haut nous rappelle la Terre. Quelques secondes après l'impact, l'ombre du parachute traverse le champ de vision de la caméra. La chaleur dégagée par la lampe prévue pour illuminer la surface, ainsi que celle de la coque chaude de la sonde, vaporise du méthane de la surface de Titan, qui est à la température de moins 180 degrés. Près de la sonde, le sol est parsemé de petites roches de glace ainsi que de petits graviers qui sont faits soit de glace d'eau, soit d'hydrocarbures, soit d'un mélange des deux. Bien que nous en sachions maintenant beaucoup plus sur ce monde mystérieux, un grand nombre de questions restent sans réponse. Où est le vaste réservoir de méthane liquide qui approvisionne l'atmosphère? Où se produisent des pluies et quelle est leur fréquence? Comment le méthane est-il recyclé dans l'atmosphère? De quoi sont faits les matériaux à la surface? Quels processus ont créé et modelé les dunes des collines et des vallées?
Alors c'est évidemment extrêmement émouvant de penser que pour la première fois, l'humanité a pu voir la surface d'une planète. Cette fameuse nuit du 14 au 15 janvier 2005, donc j'étais avec ma femme qui est astronome planétologue, vous avez entendu il y a un an ici, j'étais... au tout début que merci, nous avions l'impression par un éco-radar terrestre qu'il devait y avoir une mer de la taille de la mer Méditerranée. Vous avez vu ce que nous avons, des cailloux érodés, des blocs de glace qui ont été vraisemblablement charriés par une rivière, par un fleuve, pas trace de méthane liquide. Alors évidemment, une grande déception dans l'équipe. Et à l'ordre zéro, ce projet d'établir une échelle de Beaufort sur une mer qui n'existe pas, eh ben, il est tombé non pas à l'eau, mais au métal liquide, disons. Et en fait, quelques mois plus tard, 18 mois plus tard, nous avons découvert des lacs de méthane, mais pas du tout où nous les attendions. Nous les avons découverts près des pôles. Une grande quantité près du pôle Nord, qui était à l'ombre, qui était donc Nous avons des saisons comparables à celles que nous avons sur Terre. Simplement, l'année saturnienne, l'année titanesque dure 7 ans et pas 1 an. Et vous avez donc un solstice. Nous avons eu un solstice en juillet 2009. Et la partie sud de Titan, qui était éclairée par le soleil entre 2002 et 2009, est passée progressivement à l'ombre. La partie nord est passée à être illuminée. Et nous avons découvert effectivement des lacs. Nous avons découvert, et tout récemment encore, en février 2012, des orages monstrueux qui se produisent, comparables à des épisodes cévenols, c'est-à-dire une chute de 20 à 30 centimètres de méthane liquide en quelques heures. Et ces nuages qui se forment, ces nuages qui se déplacent, nous montrent donc qu'il y a du vent. Donc le premier élément qu'il faut pour établir une échelle de Beaufort, c'est qu'effectivement il y ait du vent. Donc ça, nous en avons la preuve. Le second, c'est bien sûr qu'il y ait du liquide, des liquides, des lacs qui permettent de générer des vagues de gravité, de capillarité à la surface de ces lacs. Alors nous allons regarder maintenant la vidéo d'un petit lac. J'adore l'astrophysique, mais je suis absolument nul en... Alors là, on va regarder... On plaque. Non, celui-là, on va le retirer. Huygens, il faut le retirer. Il faut qu'on revienne à... Oui, au bureau. Non, c'est... Oui, ça peut être, c'est sur la clé aussi, oui. C'est sur la clé. Oui, tu as raison. On te laque, voilà. Alors, nous allons voir, à partir d'images radar qui ont été faites de ce lac situé près du pôle sud de Titan, nous allons voir effectivement une suite, une promenade 3D autour de ce lac. Vous voyez donc des collines, des montagnes avec une forme érodée. Vous voyez un bord du lac qui est très noir, qui ressemble à du goudron, résidu de l'évaporation du méthane et de la photochimie des rayons solaires sur le méthane. Vous voyez que ce lac n'est pas très profond. On devine les rochers qui sont sous-jacents. Et nous voyons effectivement, nous sommes même capables avec le radar de mesurer la profondeur de ce lac. Nous avons une profondeur, un ruissellement qui est arrivé par un fleuve, donc qui a enrichi en méthane liquide ce lac. Eh bien, nous avons une profondeur qui varie de 8 à 30 mètres, suivant les endroits du lac. La mesure est faite par le radar avec un mode qu'on appelle donc le mode altimétrique. Et dans ce mode altimétrique, nous avons une réflexion sur la surface liquide du lac, une réflexion sur le fond, et si nous sommes capables de mesurer la différence de temps, deux fois le temps de propagation pour descendre jusqu'au fond puis pour remonter, va nous donner donc deux fois l'épaisseur du lac. C'est comme ça que nous avons mesuré entre 8 et 30 mètres d'épaisseur pour ce lac. Alors ça, c'est quelque chose... Là aussi, c'est très émouvant de voir ces images de ce lac. Nous avons, en utilisant ce mode altimétrique, montré que en 5 ans, le niveau du lac a baissé de 4 mètres. 4 mètres, c'est beaucoup. C'est d'autant plus important que nous sommes à 10 fois la distance de la Terre au Soleil. Donc, le flux reçu du Soleil et 1% de celui que l'on reçoit sur Terre. Et comme vous avez vu, cette atmosphère est opaque, il y a des tholins, des aérosols, eh bien, ce qui arrive au niveau du sol, c'est encore 10% de ce qui arrive dans la haute couche de l'atmosphère. Donc il arrive à peine 1,3, 1,4 watts par mètre carré de chaleur solaire au niveau du sol. Et si l'évaporation était la seule cause du changement de niveau du lac, cette évaporation, eh bien, elle refroidirait le lac, de l'ordre de 5 à 7 degrés, comme une piscine est refroidie quand vous avez de l'évaporation. Et cette évaporation, eh bien, elle aurait donné lieu à une puissance nécessaire de 8,7 watts par mètre carré. Donc il y a quelque chose qui ne marche pas. Ça ne peut pas être le soleil qui est responsable de cette évaporation. Nous sommes en train de calculer avec une de nos jeunes étudiantes si on n'a pas un flux de chaleur qui viendrait du sol ou du sous-sol, un petit peu comme quand vous regardez l'Antarctique. Quand vous regardez l'Antarctique, vous avez 4-5 km de glace. Et sous la glace, vous avez un lac qu'on appelle lac Baïkal. Ce n'est pas le même que celui que l'on a en Russie. Mais c'est un lac qui est créé par l'émission radioactive et la chaleur due à la désintégration radioactive dans les roches sous-jacentes de l'Antarctique. Ça n'est pas du tout ce que nous avons sur Titan. Nous avons fait un calcul, nous avons fait une simulation. Ça ne marche pas. Et l'hypothèse la plus vraisemblable est que nous avons un déplacement de l'équivalent de la nappe phréatique, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'alcanosphère. Sur Terre, c'est l'aquifère. Sur Titan, c'est l'alcanosphère. Et que, sous-jacent à cette croûte que vous avez vue sur le site d'atterrissage, il y ait une mer et que cette mer soit liquide, un petit peu comme sur la planète Europe, qui est, elle, autour de Jupiter, pour lequel on sait qu'on a 150 km de glace et un océan sous-jacent, salé, conducteur, avec de l'eau, dans le cas d'Europe. Ici, ce serait du méthane liquide. Alors, une des raisons que l'on a pour expliquer ce phénomène, c'est qu'effectivement, d'une part, comme je vous l'ai dit, quand vous prenez ce modèle d'évaporation de l'eau par ce petit canard, vous avez un refroidissement qui se produit dans la tête du canard. Vous avez l'eau qui remonte parce que la pression dans la tête a baissé. Le système est complètement en dehors de l'atmosphère. Il a simplement cette petite partie rouge qui prend de l'eau. L'eau s'évapore. L'intérieur du bec, de la boule autour du bec, a sa température qui diminue d'environ 1 degré et le liquide remonte dans le tube. Vous avez cette bascule, vous avez fabriqué un moteur thermodynamique qui est un parfait objet de physique pour faire un problème d'agrégation de physique. Alors cette possibilité qu'il y ait donc un océan sous-jacent à la croûte, eh bien, on va essayer de la tester et on va la tester avec différentes méthodes. L'une des méthodes, c'est d'utiliser ce qui se fait quand vous voulez faire la différence entre un œuf dur et un œuf cuit et cru. Vous allez prendre un œuf et vous allez essayer de comprendre ses propriétés mécaniques dans sa rotation sur lui-même. Alors, si vous prenez un œuf cru, vous le faites tourner sur un disque, j'essaye de l'arrêter, eh bien, il ne s'arrête pas, il continue à tourner. Et pourquoi continue-t-il à tourner? Parce que l'albumine qui entoure le jaune, cette albumine, eh bien, elle tourne pendant que j'arrête la surface, puis elle entraîne, effectivement, la coquille de l'œuf et continue à tourner. Si par contre je prends un œuf, c'est un œuf que je viens de ramener du Vietnam, une pierre solide, je le fais tourner, je l'arrête, il s'arrête. Et j'ai donc un moyen dynamique de déterminer si j'ai un liquide sous-jacent à la croûte ou pas. Eh bien, nous avons eu une série d'observations entre 2007 et 2009 qui montrait que le pôle de Titan semblait s'être déplacé de plusieurs kilomètres en quelques années. Et ça, quand vous parlez à un géologue, il vous dit c'est quelque chose que je ne comprends pas. Ça n'est pas possible, même si je prends les plaques les plus mobiles sur Terre, les plaques de l'Amérique du Nord et puis celles du Pacifique Sud qui se glissent l'une sur l'autre la faille de San Andreas en Californie, on a un déplacement de quelques centimètres par an. Donc même si vous mettez 3 ans, 4 ans, vous n'allez pas avoir des kilomètres de déplacement. Et donc c'est une des indications que nous avons que, effectivement, s'il y a un mouvement du pôle aussi important, c'est parce que la coquille flotte sur un océan sous-jacent liquide. Alors, cette hypothèse, eh bien, elle nous a permis de défendre la prolongation de la mission de plusieurs années. Elle devait s'arrêter en 2007. Elle a été prolongée une première fois jusqu'en 2010 et elle vient d'être prolongée jusqu'en 2019, ce qui, évidemment, nous réjouit parce que, comme vous savez, le contexte budgétaire pour la recherche, pour l'enseignement, n'est pas des plus favorables actuellement. Et une autre preuve nous a été offerte par la découverte et la mesure d'un cryovolcan. Alors, un cryovolcan, c'est-à-dire un système... c'est là qu'il faut... C'est bon ? Dans lequel nous avons une... comme un volcan, la chaîne des volcans en Auvergne, vous avez un cratère par lequel vous allez avoir une éjection de glace, de liquide, qui va remplir l'atmosphère de ce qui aurait dû disparaître, le méthane. Alors vous voyez cette image tout à fait exceptionnelle de ce cryovolcan. L'altitude la plus élevée de la montagne, c'est d'environ 1600 mètres. La profondeur du cratère, c'est d'à peu près 2 km. Et vous voyez qu'effectivement, on a l'impression qu'un éjecta a été responsable de cette montagne qui se crée. Alors maintenant, nous allons avoir l'élévation des terrains qui entourent ce cryovolcan. Nous voyons tout au fond de l'image des dunes qui confortent, vous voyez ces stries parallèles, ce sont des dunes comparables à celles que nous avions vues tout à l'heure. Ces dunes contournent les montagnes, donc nous avons là une deuxième preuve qu'il doit y avoir effectivement un cryovolcan qui est alimenté par cet océan sous-jacent de Titan. De la surface de Titan. Alors, cette série d'observations a été complétée par, je vous ai montré le premier lac que nous avons vu au pôle sud de Titan. Nous en avons une série d'autres au nord, avec certains qui font des dimensions de quelques millions de kilomètres carrés, et pour lesquels nous avons, du coup, essayé de mesurer la rugosité de la surface. On va utiliser le radar dans un mode différent de celui que je vous ai décrit. Jusqu'à présent, on a pris un mode altimétrique. Là, vous avez un mode diffusiométrique pour mesurer la rugosité de la surface. Là, c'est dune que vous voyez pour une seconde fois. Eh bien, nous avons essayé d'observer la planéité du lac Ontario, que je vous ai montré tout à l'heure, d'une mer du pôle Nord qui s'appelle Marée Kraken, et nous avons la certitude que ce qu'on appelle la valeur quadratique moyenne, c'est-à-dire la hauteur maximum des vagues, est inférieure à 0,3 mm sur 100 000 km². Lors de la première mesure, la planéité était telle que le signal qui avait été envoyé est réfléchi tellement fortement qu'il a saturé le récepteur. Il a fallu qu'on atténue le signal d'un facteur 1000 pour arriver à faire cette mesure. Ça traduit que c'est vraiment un miroir plan et qu'il n'y a pas de vent à la surface de cette mer, ni à la surface de Marée Kraken. Alors, nous sommes dans une difficulté. Effectivement, nous ne savons pas pourquoi nous n'avons pas, effectivement, de vagues qui apparaissent sur cette mer. Et je voudrais vous montrer une toute dernière image que nous avons prise il y a quelques semaines, dans laquelle c'est une partie vers l'équateur de Titan, dans lequel nous voyons des dunes sur la partie gauche. La couleur indique l'altitude par rapport à un point zéro de référence. Et c'est à gauche, vous voyez que vous avez des dunes, des rides. Et puis d'un seul coup, à droite, dans cette région qui s'appelle Xanadu, eh bien, nous avons une absence totale de dunes, totale de rides. Nous avons des pics. Nous ne savons pas ce qui s'est produit. Nous ne savons pas expliquer l'émissivité dans le mode radiométrique et l'émissivité dans le mode radar de cette partie de Titan. Cette image est là 3 semaines. Elle n'est pas encore publiée. Nous travaillons dessus. On a dû échanger 90 ou 100 courriers électroniques au cours des 15 derniers jours pour essayer de trouver une explication à ces observations. Alors, je vais maintenant vous montrer un autre satellite sur lequel nous avons travaillé, j'ai commencé à travailler dessus en 1977, et ce satellite s'appelle Herschel. Alors, ce satellite, il a été construit par l'Europe, et je crois que vraiment l'Europe spatiale peut être fière de cette réalisation. Alors ici, je crois que tu m'avais indiqué comment je faisais pour passer en diapo et puis en full scale. Puis après, je fais un par un. Hein. Alors, William Herschel était un astronome anglais, compositeur de musique aussi. Il a fait des très, très belles pièces de musique baroque. Et il a découvert que quand on prenait un spectre du Soleil avec un prisme, eh bien, au-delà de la partie rouge, donc les longueurs d'onde les plus grandes du rayonnement, ici vous avez le violet, l'ultraviolet, c'est un petit peu comme un arc-en-ciel, si vous voulez, hein, c'est la décomposition de la lumière solaire par un prisme. Vous avez ici le rouge qui s'appelle, eh bien, au-delà de cette longueur d'onde, il y a ce qu'on appelle l'infrarouge, et en mettant des thermomètres, il a pu montrer qu'il y avait une élévation de température dû à ce qu'on appelle le rayonnement infrarouge dû dans le spectre solaire, dans la lumière solaire qui nous est envoyée. Alors, c'était effectivement une grande découverte, et cette découverte, elle se retrouve. Je vais vous montrer un certain nombre de capteurs qui vont permettre d'observer ce rayonnement infrarouge, ce rayonnement qui se produit à des longueurs d'onde beaucoup plus grande que le rayonnement visible que l'on a habituellement. Vous avez ici une tête de chat, et vous remarquez que cette tête de chat qui a été observée avec un capteur thermosensible, sensible à la température, elle traduit que le bout du nez du chat, il est beaucoup plus froid que ses oreilles ou ses yeux. Et effectivement, le chat, ben, il fait comme le canard, il se mouille le museau avec sa langue. La salive qu'il met sur son museau s'évapore, la température du museau est plus basse, de l'ordre de 1 degré aussi, et vous avez donc cette image. Donc nous allons être sensibles à des écarts de température extrêmement faibles en utilisant des techniques qui ont été développées pour ce satellite Herschel. Alors nous nous intéressons à des domaines de longueur d'onde qui sont entre 60 et 500 microns, 0,5 mm, et qui correspondent à des températures de moins 260 à environ moins 220 degrés Celsius. Donc c'est un univers froid, c'est l'univers dans lequel se forment des étoiles, dans lequel se forment des protoplanètes, avant qu'elles ne deviennent, comme le Soleil, émettrices de rayonnement beaucoup plus chaud. Alors, l'atmosphère terrestre bloque le rayonnement que l'on peut recevoir. Il faut donc aller dans l'espace. Il faut, d'autre part, essayer de minimiser l'émission parasite que pourrait donner le télescope, que pourrait donner le satellite. Et on va donc refroidir le satellite On va refroidir le télescope et on va utiliser des récepteurs dits cryogéniques qui sont à moins 270 degrés Celsius. Alors, auparavant, l'Europe avait déjà participé et avait construit un certain nombre de satellites, IRAS, ISO, et puis donc Herschel qui a été construit. Je vous dis, ma première réunion pour Herschel, c'était en 1977. Nous l'avons lancé en mai 2009 et dans quelques jours, il va être à la fin de son hélium. Nous avons un réservoir avec 2400 litres d'hélium liquide, donc à moins 271 degrés, un télescope de 3,60 m de diamètre secondaire qui fait que le rayonnement qui vient d'un objet se réfléchit sur le radiotélescope. C'est comme une antenne de télévision. Hein. Il va sur un miroir dit secondaire et il va ensuite sur la chaîne de réception et les trois récepteurs qui ont été construits par un consortium de 47 instituts, 17 pays différents. Donc l'ensemble de ces documents seront remis bien sûr sur une clé pour qu'ils puissent être consultés et accessibles. Hein, tout est ouvert et peut être utilisé pour l'enseignement, pour des publications. Alors ce télescope, il a des propriétés très particulières. Il a été fabriqué dans un matériau qu'on appelle le carbure de silicium. Ce télescope de 3,60 m de diamètre, il a 6 mm d'épaisseur et il a une précision de surface qui est pratiquement celle d'un télescope optique. Autrement dit, le polissage qui a été fait a utilisé des technologies qu'on a dans les chaudières nucléaires, dans les têtes de fusée, pour avoir un poli quasiment optique et donc réfléchir la chaleur ou maintenir pour une fusée le cryogène, hydrogène, oxygène, avant de le faire se brûler. Le satellite a été installé dans un point très particulier qui s'appelle le point de Lagrange L2 et qui est à 1,5 million de kilomètres de la Terre sur l'axe Terre-Soleil. Alors pourquoi cette distance ? Parce que c'est un point qui est stable du point de vue de la dynamique céleste. C'est un point qui tourne à la même vitesse que la Terre autour du Soleil. Donc si vous mettez le satellite en ce point, il est pratiquement fixe par rapport à l'axe Terre-Soleil. Et vous allez avoir donc une orbite qui est très stable. Bon, je passe là-dessus. Voilà les trois instruments focaux qui ont été construits par ces consortiums donc de laboratoires que je vous ai décrits. Pour vous donner le prix, par exemple, d'un de ces instruments, le satellite, c'est 1 milliard d'euros. Les instruments, c'est 200 à 300 millions d'euros chacun. Hein, donc des efforts financiers absolument considérables. Et je crois que vraiment l'Europe, le CNES, peuvent être fiers de ces développements et de cette réussite technologique. Alors, il y avait quelque chose qui nous a chipoté. Je suis ce qu'on appelle mission scientist sur Herschel, avec cinq collègues. Nous sommes là pour essayer d'assurer les meilleurs résultats scientifiques, la meilleure communication avec la communauté de chacun des pays. Et nous avions très peur que lors du refroidissement du télescope, refroidissement qui se fait au point de Lagrange L2, eh bien, nous ayons une déformation du miroir. Un précédent sur le Hubble Space Telescope avait amené à ce qu'on avait une surface polie parfaite, mais il manquait 4 cm sur les bords du miroir optique. 4 cm, ce qui veut dire que le télescope non seulement louchait, mais que pour le rendre opérationnel, il avait fallu envoyer des lunettes avec des astronautes pour les installer. Et cela était possible parce que le Space Telescope était à une altitude de 680 km et qu'il existait une navette spatiale permettant d'aller jusqu'à 880 km. Donc ça a coûté 500 millions de dollars en plus, hein, simplement d'aller mettre ses lunettes sur le télescope. Donc nous voulions absolument l'éviter et il nous a fallu nous battre, et je dis bien nous battre, pour convaincre nos autorités que nous voulions faire des tests à la température qui serait atteinte par le télescope au point de Lagrange L2. La température est d'environ moins 190 Celsius. Donc, on refroidit de 20 degrés le jour du lancement à moins 190, et on a bien sûr des déformations mécaniques légitimes. Et nous avons rudement bien fait, parce que les modèles que nous livrait l'industrie pour le télescope disaient que le foyer, l'endroit où se focalise le rayonnement, allait se déplacer de 2,7 mm. Et en fait, nous avons mesuré 11 mm, ce qui veut dire que nous aurions été dans la position du Hubble Space Telescope. Il aurait fallu mettre des lunettes. Et aller mettre des lunettes au point de Lagrange L2, vous pouvez oublier, ça n'est pas possible d'aller à 1,5 million de kilomètres. Il n'y a pas de... C'est pas possible. Donc, on a rudement bien fait de dépenser ces quelques millions, de faire dépenser ces quelques millions d'euros supplémentaires. Alors voilà donc comment était le télescope juste avant d'être lancé, avec une protection donc en millard aluminé pour éviter le rayonnement solaire parasite. La coiffe de la fusée qui va être utilisée, il y a eu deux satellites qui étaient envoyés ensemble, Planck, vous en avez entendu parler dans la presse la semaine dernière, il y a cette semaine une conférence importante pour l'annonce des résultats de Planck, et Herschel, qui sont donc deux satellites construits par l'Europe, grande participation française, allemande, et je crois que vraiment c'est une réussite technologique, scientifique, humaine de cette aventure. Je m'excuse de le dire, j'espère que s'il y a des hommes politiques dans cette salle, ils ne le prendront pas mal, mais si nos hommes politiques européens avaient le même degré de collaboration que nous avons pu avoir dans le monde scientifique, eh bien, je pense que l'Europe se porterait mieux qu'elle ne le fait aujourd'hui. Donc, là, lancement le 13 mai 2009 et 4 ans après, fin de l'aventure avec l'hélium liquide. Bon, je passe dessus. Refroidissement du télescope qui a duré plusieurs semaines. Et nous avons maintenant un télescope parfaitement stabilisé qui fonctionne remarquablement. Alors, j'ai quelques... cliquez pour quitter... J'ai quelques diapos que je voudrais montrer de résultats scientifiques qui ont été obtenus avec... on va passer à HST0. Voilà. Donc, milieu interstellaire et formation d'étoiles, nous avons ici la nébuleuse d'Orion, telle que vous la voyez à l'œil nu, telle que vous la voyez avec une paire de jumelles. Vous connaissez donc le trapèze, vous connaissez les étoiles de cette nébuleuse d'Orion. Eh bien, voilà à quoi elle ressemble avec les observations de Herschel. Vous voyez apparaître des filaments, vous voyez apparaître des objets beaucoup plus lumineux en submillimétrique qu'ils ne le sont en optique, et vous avez des régions de formation d'étoiles autour de ces filaments lumineux qui ont été mis en évidence par Herschel. C'est peut-être la plus grande découverte qui a été faite, c'est que les étoiles ne se forment pas simplement par effondrement gravitationnel dans des nuages moléculaires, mais qu'elles se forment par une sorte d'agglutinement, d'agglomération autour de filaments. Et Planck semble avoir trouvé la même chose pour les galaxies, les amas de galaxies. Il y a peut-être là un processus de formation de ces objets, étoiles, protoplanètes d'un côté, et puis galaxies, amas de galaxies, comparables. Nous n'en avons pas non plus la clé encore aujourd'hui. L'autre partie, ça c'est l'instrument pour lequel mon laboratoire a construit l'un des canaux, canal 1 du récepteur hétérodyne. Eh bien, vous voyez ici cette forêt de raies. Forêt de raies, chacune des traînées que vous voyez correspond à la signature d'une molécule dans le milieu interstellaire, dans la direction de ce nuage d'Orion que je vous ai montré précédemment. C'est-à-dire que nous avons, pour un des spectres qui a été pris, 150 000 raies. Nous en attribuons 10 000 à un jeune scientifique, un jeune chercheur, pour les identifier, pour en déterminer l'abondance de ces molécules, l'abondance isotopique, et nous avons découvert des dizaines de nouvelles molécules. Un certain nombre de ces transitions sont dues à quelques molécules, comme l'alcool méthylique, comme l'alcool éthylique, comme le formiate de méthyle, qui sont relativement abondantes, mais vous en avez d'autres qui sont dues à des espèces que nous ne connaissons pas sur Terre. HCl2+, nous ne connaissons pas. On connaît l'acide chlorhydrique, on connaît HCl+, on ne connaît pas HCl2+, SH+, CH+. Une moisson de résultats qui ne sont pas encore tous publiés. Nous avons actuellement 2500 astronomes du monde entier qui travaillent sur les données acquises par Herschel. La communauté astronomique mondiale, c'est un petit peu plus de 5000 astronomes. Vous voyez, 5000. Et bien, parmi ces 5000, il y en a 2500 qui sont utilisateurs des données qui sont ouvertes à l'ensemble de la communauté par ces observations de Herschel. Alors, je vais maintenant passer à une partie qui est une autre partie des observations qui sont faites avec Herschel. C'est les observations de ce qu'on appelle les nuages moléculaires. C'est des nuages dans lesquels vous avez de l'hydrogène moléculaire et essentiellement du monoxyde de carbone. Le monoxyde de carbone CO est très abondant dans le milieu interstellaire. Et quand vous regardez en détail la structure d'un de ces nuages moléculaires, on voit qu'ils sont extrêmement filamenteux. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. La grande découverte de Herschel, c'est qu'effectivement, ces nuages ne sont pas comme des grosses pommes de terre. Quand j'ai commencé à travailler dans ce domaine en 70, on pensait que c'était comme une patate, puis que vous aviez un effondrement gravitationnel, que quand la masse de l'objet était suffisamment élevée, vous aviez des réactions nucléaires qui commençaient, puis une étoile qui s'était formée. Eh bien, il semble que ce schéma est tellement primaire qu'il est remis en question par ces observations de Herschel. Vous voyez donc des filaments. Vous prenez le petit carré rouge de droite, vous l'agrandissez et vous voyez tous ces filaments qui se produisent. J'ai une image encore plus spectaculaire un petit peu plus tard de ces différentes régions. Donc vous voyez ici les filaments. Vous voyez ici une étoile extrêmement jeune, extrêmement chaude qui s'est produite. Et sur cette image d'Aquila, on voit très très bien les filaments autour desquels se sont formées ces étoiles et ces proto-étoiles. Donc l'analyse est en cours. Vous voyez ici ces points bleus, ce sont ces étoiles qui se sont formées uniquement le long de ces filaments. Il n'y en a pas du tout dans la partie intrafilament. Donc quelque chose qui est en cours d'analyse, c'est Philippe André du CEA Saclay qui travaille sur ce domaine. Vous avez aussi des sources qui sont, comme vous pouvez le constater, dans les différents domaines de longueur d'onde que l'on peut observer. Vous avez une source qui apparaît comme très brillante à 160 microns, un peu moins brillante à 100, peu brillante à 70 et à peine visible à 24 microns. D'après la courbe que je vous ai montrée au tout début, cela va nous renseigner sur la température, l'émissivité maximum de ce corps à une température qui va être donc assez faible, inférieure à 100 Kelvin. Vous avez ici d'autres images de ces objets et quand vous regardez avec un grand détail, vous voyez que ce qui était un cœur simple est en fait composé de deux parties de ce cœur. Et nous avons vraisemblablement ici la première mise en évidence d'un disque autour d'une étoile, d'un disque protoplanétaire autour d'une étoile, disque qui donne naissance à un système planétaire comparable à celui que nous avons sur Terre. Donc une moisson de résultats avec cet instrument, cet ensemble d'instruments sur Herschel. Et là, je voudrais vous montrer juste quelques résultats extragalactiques sur des galaxies observées dans le la galaxie dite des chiens de chasse, Messier 51, où on voit bien que la région où se forment les étoiles est plutôt située vers l'extérieur du bras spiral de la galaxie, ce qui est vraisemblablement lié à une onde de compression. La spirale tourne autour du trou noir du centre de la galaxie et vous avez une onde de compression qui va fabriquer cette série d'étoiles. Des objets dans lesquels, c'est ici la distribution d'énergie que l'on a en fonction de la longueur d'onde, pour ces objets, découverte d'objets à des déplacements vers le rouge considérables, correspondant à un âge très jeune de notre univers. Les objets qu'on appelle le redshift Z égale 4, c'est-à-dire à un moment où l'univers avait quelques centaines de millions d'années, et donc une analyse de ce qui s'est passé à ce moment. La vision de l'instrument PAX avec Herschel et la vision qui avait été obtenue dans l'infrarouge proche, très très proche, avec un autre satellite qui s'appelait Spitzer. On voit bien que le type spectral des étoiles, on voit bien que l'émissivité des objets change beaucoup et que nous nous intéressons à des objets beaucoup plus jeunes avec ce domaine de longueur d'onde, beaucoup plus froides en fait que ne le font les autres objets. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire pour Herschel. Et je voudrais maintenant passer au troisième satellite sur lequel je suis co-investigateur. C'est un satellite qui a été construit lui aussi par l'Europe et qui va atterrir sur un noyau cométaire en octobre 2014. Le satellite a été envoyé en 2005. Qu'est-ce qui se passe? Et en allant vers ce noyau cométaire de la comète dite Churyumov-Gerasimenko, nous sommes passés à côté de deux astéroïdes. Des astéroïdes comparables à celui que je vous présente. Cet astéroïde, lui, s'appelle Itokawa. C'est un astéroïde de 6,8 km de dimension maximum. Il ressemble beaucoup à un petit hippopotame égyptien, vous voyez. Mais si vous regardez l'état de la surface de cet objet, vous voyez que vous avez une partie qui est très rugueuse, et puis une partie qui est très très lisse. Ici, c'est très très lisse. Nous ne savons pas non plus pourquoi nous avons ce type de changement de propriété de la surface. On a l'impression qu'on a eu une boule de neige qui a été poussée sur la surface de l'astéroïde et qu'il a donné cette partie très lisse alors que le reste est resté très rugueux. Et dans les deux astéroïdes que nous avons observés en passant donc pour aller voir effectivement ce noyau cométaire, nous avons croisé deux astéroïdes. Le premier, à la fin 2008, début 2009, nous étions à 800 km de cet objet. Nous sommes passés avec le satellite en balistique, avec une vitesse relative de plus de 8 km par seconde. Nous nous en sommes approchés à 800 km pour celui-là. Et les observations ont permis de déterminer la courbe de luminosité observée dans les deux canaux, mon labo en a construit un, le JPL en a construit un autre, qui ont été observés. Alors ça aussi, tout sera donné donc ici pour que vous puissiez y avoir accès et puis réfléchir un petit peu plus à ces observations. Voilà le petit radiotélescope qui a été construit, 30 cm de diamètre, avec deux bandes de fréquence, l'une à 1,6 mm, 190 gigas, l'autre à 0,5 mm, permettant de mesurer le continuum, c'est-à-dire l'émission thermique de cet objet, et aussi faire la spectroscopie. Je vous ai montré tout à l'heure 150 000 raies sur cette nébuleuse d'Orion. Eh bien ici, nous avons la capacité de mesurer 17 transitions d'espèces moléculaires qui vont être éjectés par le noyau de la comète, qui vont apparaître dans la coma de la comète, lorsqu'elle va s'approcher du Soleil. Et ces molécules vont de la vapeur d'eau, des isotopes de la vapeur d'eau, H2O18, H2O17, HDO, monoxyde de carbone, ammoniac, alcool méthylique. Et nous allons donc commencer cette analyse en octobre 2014. À partir de juillet 2013, nous serons suffisamment près du Soleil pour que l'on puisse réactiver tous les instruments qui sont à bord de ce satellite et arriver ainsi à observer les éjectats de gaz, de neige, par le noyau cométaire, comme cela va être fait. Alors, voilà le résultat des observations qui ont été obtenues dans le canal à 562 gigas en rouge. En vert, c'est le canal à 190 gigas. Et le pointage que nous avions sur cet objet, le premier objet, Steins, dans lequel le lobe, c'est-à-dire la puissance détectée à partir du canal submillimétrique est en rouge, celle du canal millimétrique est en vert. Donc on avait un léger dépointage, mais nous avons, pour cet astéroïde qui ressemble vraiment à un diamant de bague de fiançailles, nous avons développé une technologie au laboratoire permettant de comprendre l'émissivité de cet objet. Nous avons utilisé une photo optique pour modéliser donc cette surface. 1200 facettes ont été utilisées. Et si vous mesurez au laboratoire les propriétés de matériaux comparables à ceux de l'astéroïde, c'est-à-dire que nous sommes allés récupérer, non pas nous-mêmes, mais nous avons utilisé des météorites récupérées dans l'Antarctique, récupérées dans le désert égyptien, au Muséum d'Histoire Naturelle, pour en faire l'analyse au laboratoire. Nous en déterminons les propriétés électromagnétiques, les propriétés de conductibilité thermique, et nous sommes capables de prédire, à partir du modèle à 1200 facettes que je vous décris, l'émission, l'émissivité que devrait avoir cet objet lorsqu'il est éclairé par le Soleil, et ce, dans toutes les directions de l'espace, toutes les directions d'illumination du Soleil, toutes les directions de l'espace. Et vous allez voir que lorsqu'on compare les prédictions du modèle, c'est ces petites barres que vous voyez, avec les observations faites en rouge, l'accord est vraiment très, très bon. Donc nous avons ici une preuve que cet objet, Steins, eh bien, était en fait un objet solide, une roche solide, 6,8 km de diamètre. L'année d'après, nous avons observé un autre astéroïde appelé Lutetia, beaucoup plus grand, 130 km de diamètre, et nous avons pu montrer que les observations n'étaient possibles que si la couche rocheuse était couverte d'une poudre comparable à la poudre lunaire, ce qu'on appelle un régolithe, et qu'il y avait vraisemblablement 2 cm de régolithe. C'est en grande partie la conductibilité thermique qui nous permet de faire cette analyse. Donc voilà les observations en millimétrique, en submillimétrique. Vous voyez que le fit, disons, la façon, l'ajustement qui est fait entre observation et modélisation est très très bon, ce qui nous permet d'avoir des propriétés diélectriques de ces matériaux. Les deux articles ont été acceptés tout récemment. Alors, je terminerai par une toute petite observation qui a été faite avec Herschel au mois de janvier de cette année. Vous avez tous suivi ce qui s'est passé avec cet astéroïde qui s'est fragmenté au-dessus de la Russie, qui a causé des centaines de blessés, des dégâts considérables, qui se chiffrent en dizaines, peut-être même centaines de millions de dollars. Et quelques jours avant cet impact, un autre astéroïde passait tout près de la Terre. Cet astéroïde s'appelle Apophis. Et Apophis est passé à 28 000 km de la Terre. Nous l'avons observé avec Herschel, dans la nuit donc du 10 au 11 janvier dernier, et nous avons pu montrer que cet astéroïde avait un diamètre supérieur de plus de 20% à ce qui avait été observé depuis 2004, année de la découverte de cet astéroïde. Alors pourquoi cet astéroïde est important ? Parce qu'il a une orbite périodique autour du Soleil et son orbite croise celle de la Terre régulièrement. Il repassera le 15 avril 2028 et le 16 avril 2036. La probabilité qu'il heurte la Terre en 2028, avant que nous n'ayons fait les observations du mois de janvier, était de 2,8%, ce qui est énorme pour un astéroïde qui s'approche de la Terre. Il existe une toute petite fenêtre de quelques centaines de kilomètres où, si l'astéroïde passe par cette fenêtre, lors de la prochaine orbite, il heurte la Terre. Et donc la connaissance de cette orbite est extrêmement importante, car, je vous ai dit, le diamètre a changé, il est plus grand de 20%, la masse a augmenté de à peu près 70%. Cet astéroïde pèse 4,7 milliards de tonnes. 4,7 milliards de tonnes. Il arrivera autour de la Terre avec une vitesse de 80 000 km/h. 80 000 km/h. Vous avez vu les dégâts qu'a fait le petit astéroïde qui est tombé sur la Russie, hein, qui faisait quelques dizaines de mètres. Ici, nous avons un objet qui doit faire 335 mètres de diamètre. Donc, le volume, c'est le cube de la dimension. La vitesse, elle ne change pas beaucoup. Hein, c'est toujours de l'ordre de 80 000 km/h. L'énergie qui pourrait être libérée par un tel objet est considérable. S'il tombe dans le Pacifique, on a un tsunami de 170 mètres de haut. Vous avez vu ce qui s'est passé en Indonésie à Noël, il y a 3 ans, 250 000 morts, avec un tsunami qui faisait peut-être une dizaine de mètres quand il avait atteint la côte. Vous avez vu ce qui s'est produit à Fukushima, avec une vague de 35 mètres de haut. Donc vous imaginez, si l'impact se produit, ce que serait la destruction sur notre planète. Nous savons maintenant qu'il y a 66 millions d'années, quand il y a eu l'extinction des dinosaures, eh bien c'est la chute d'un astéroïde solide, mais pas très très gros, au sud du Mexique, hein, que l'on a cet impact, et que cet impact, à quelques milliers d'années près, correspond tout à fait à la date de l'extinction des dinosaures. Donc c'est quelque chose qui est évidemment pris très au sérieux par les agences. C'est un domaine de recherche très important. D'une part, de détecter le plus possible de ces objets qui ont une certaine probabilité de heurter la Terre. Et d'un autre côté, d'essayer de trouver un moyen de détourner, de modifier la trajectoire de ces objets pour qu'ils ne tombent pas sur Terre. Alors il y a plusieurs solutions qui sont envisagées. L'une des solutions, c'est d'envoyer une fusée, de la faire atterrir, et puis de donner une poussée pour modifier la trajectoire. Alors, c'est quand même si vous avez une fusée Saturne 5 ou une fusée Ariane 6, elles ont une masse qui est petite, elles ne pourront pas modifier beaucoup la trajectoire. Une autre idée, c'est d'envoyer un dispositif qui va peindre d'un côté en blanc, de l'autre côté en noir, et le rayonnement reçu du soleil, sur la partie blanche, il est réfléchi, comme sur la neige sur Terre, sur la partie noire, il est absorbé, et vous pouvez très légèrement modifier la trajectoire pour qu'il ne tombe pas, il ne passe pas à 14 000 km de la Terre en 2028 ou en 2036, voire tomber sur la Terre éventuellement. Et puis alors, il y a une solution qui est proposé par nos collègues russes, c'est de dire, on envoie une bombe atomique et puis on le fait péter, quoi. Hein, et on le fait exploser, et puis il n'y aura plus que des petits fragments, et du coup, on aura résolu le problème de cet objet. Enfin, c'est un domaine dans lequel une prise de conscience est en train de se faire dans toutes les agences spatiales, et effectivement, d'essayer de modifier ces trajectoires. Voilà ce que je voulais vous raconter ce soir sur ces trois satellites sur lesquels j'ai eu la chance de travailler. au cours des dernières années de ma vie scientifique. Je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup. On va passer à une partie questions, éventuellement. Oui.
Bonjour, j'ai quelques questions sur Titan. Déjà, avec la distance du Soleil sous l'atmosphère, au sol de Titan, quel est l'éclairement, par exemple, par rapport à la pleine Lune?
On estime qu'on a à peu près 1,3 watts par mètre carré, maximum. Donc, la répartition spectrale n'est pas évidemment la même que sur Terre, puisque vous avez une partie d'absorption par le méthane, donc l'infrarouge ne passe pas du tout aussi bien que sur Terre. Donc c'est de l'ordre de 1 pour 1000 de l'éclairement que nous avons sur Terre.
Je ne me rends pas compte de ce que ça donne par rapport au Soleil chez nous.
Le Soleil...
Un très gros soir d'orage ou quoi?
Le Soleil sur Terre, c'est de l'ordre de 1000 watts par mètre carré. Et là, nous sommes à 1,3 watts par mètre carré. 1,3, 1,2.
Et ça dépend comment l'œil réagit.
Alors l'œil ne verrait pas grand-chose. Ouais. Il ne verrait pas grand-chose sur Titan. Vous auriez une sorte de pénombre. Les images que vous avez vues, qui sont des images prises en optique, utilisent des caméras extrêmement sensibles, des pixels particulièrement sensibles qui ont été développés pour analyser le rayonnement, dont le maximum est bien sûr beaucoup plus rouge, beaucoup plus infrarouge que sur Terre, puisque la température de la surface de Titan varie entre 92 Kelvin à l'équateur et 90,5, 91 au pôle.
Bien. Et également, je voulais savoir, vous avez parlé là du lac Ontario et vous avez pu mesurer la profondeur. Pour la Kraken Marée, quelle est la profondeur à peu près?
On pense que c'est un petit peu plus, 30 à 50 mètres. 30 à 50 mètres. Nous n'avons pas mesuré de variation du niveau sensible pour la mer Kraken Marée. Marée Ligeia, nous n'avons pas mesuré de changement effectif entre les différentes orbites.
De toute façon, c'est beaucoup plus grand, donc ça s'évaporerait plus difficilement.
C'est beaucoup, beaucoup plus grand. C'est aussi à l'ombre, c'était à l'ombre, et donc l'analyse que nous faisons actuellement, que j'ai encore fait le bilan avant de venir, là, lundi je suis revenu du Vietnam, mardi j'ai travaillé avec cette jeune étudiante. Nous avons regardé et il semble qu'il y a un petit écart de température entre la partie liquide et la partie bord de ces lacs, mais un écart qui est inférieur à 1 degré. Donc, s'il y a un peu d'évaporation, c'est très très faible par rapport à ce qui est attendu. Je vous ai dit 4 mètres, ça ferait 7 degrés d'écart, ce qui veut dire que le méthane liquide devrait s'être solidifié d'ailleurs. Et si le méthane se solidifie, il n'est pas comme sur Terre, la glace ne flotte pas, la glace de méthane ne flotte pas sur le méthane, elle coule au fond.
Je crois qu'il y a récemment eu un article disant qu'il pouvait y avoir des bulles d'air dedans et qu'il pouvait y avoir la glace qui flotte.
C'est un article de oui. Jonathan Lunin, effectivement, dans lequel on regarde si on a des mousses, des foam en anglais, si on a des clatrates de méthane aussi, qui pourraient être une forme stable à la température de Titan. Vous avez lu dans la presse tout récemment que le Japon vient de commencer l'exploitation d'un champ de clatrates de méthane. Et les clatrates, nous sommes sûrs qu'ils sont présents sur Titan. Et ces clatrates, c'est des sphères de 30 molécules d'eau qui permettent de trapper à l'intérieur du méthane. Et 1 cm cube d'eau permet de trapper 160 cm cube de méthane. Eh bien, le Japon estime qu'il a 100 ans d'indépendance énergétique par l'exploitation des champs qui sont au large d'Hokkaido, dans une partie relativement profonde, 700-800 mètres de profondeur. Et nous pensons qu'il y a des clatrates de méthane sur Titan. Mais la question que vous soulevez, effectivement, est-ce qu'il y a une mousse? Est-ce qu'il y a de la glace fragmentée avec suffisamment de méthane à l'intérieur pour liquide, gazeux, pour pouvoir la maintenir en... Nous ne savons pas.
Oui, donc d'où l'intérêt d'y envoyer un ballon ou
une sonde comme ça. C'est un des projets qui a été proposé. Il n'a pas été retenu, finalement. C'était même d'avoir un bateau qui allait sur une de ces mers avec un bateau. Alors,
Évidemment, on ne pouvait pas lui mettre de voile. On n'a toujours pas trouvé de vague. Donc, s'il n'y a pas de vague, il n'y a pas de vent. Ce qui, quand même, nous conforte, c'est que nous avons vu des orages extrêmement violents. Nous avons vu des nuages se déplacer. Ça n'avait pas l'air d'être des nuages orographiques. Hein. Donc, il y a quand même des endroits où il y a du vent.
C'est peut-être saisonnier, quoi.
C'est
peut-être saisonnier.
C'est saisonnier. Il y a un modèle qui a été développé par le laboratoire de météodynamique qui semble montrer qu'à partir de 2015, on doit avoir des vents de quelques mètres par seconde qui sont générés par cet éclairement supplémentaire qui est arrivé sur la partie nord et que quelques mètres par seconde, c'est suffisant pour générer des vagues. Nous avons un article là qui vient d'être accepté il y a quelques semaines sur la génération des vagues à partir de micro-turbulences dès qu'on dépasse 1,7, 1,8 mètres par seconde.
Des vagues de quelle hauteur ?
Alors, ce ne sont pas des vagues de très, très grande, très, très grande hauteur. La vitesse du vent, comme vous le savez, va vous donner une relation entre hauteur des vagues et vitesse du vent. C'est ce qu'on appelle l'échelle de Beaufort. Hein, vous prenez un vent de force 12, c'est 130, 140 km/h. Si vous prenez sur l'échelle de Beaufort une échelle de force 7, c'est 50, 60 km/h. Si vous prenez force 1, c'est une petite risée que vous avez à la surface. Alors évidemment, il faut calibrer ça avec la constante de capillarité, avec la gravité locale que vous avez, et la viscosité, bien sûr, du méthane. Vous n'êtes pas loin du point de solidification du méthane. Quand je vous donnais la température de 90,5, le méthane, sous la pression que l'on a sur distance, c'est 90,1. Donc on est juste au-dessus de ce point de solidification du méthane.
Et on est près du point triple, quoi.
On est près du point triple avec cette pression. Et une des hypothèses, c'est effectivement qu'on a des sortes de glaçons qui se sont formés. Quand je vous ai mentionné tout au début l'existence d'une mer Méditerranée de méthane sur Titan, on a une grosse montagne blanche qui apparaît en infrarouge proche. On a cru pendant un certain temps que c'était un iceberg qui flottait sur cette mer. Et puis après, on a eu l'idée que c'était de la neige de méthane, comme de la neige carbonique, qui s'était posée dessus, que c'était une montagne. Puis vous avez vu
Donc on ne sait pas d'où venait cette tâche.
Non, c'est l'analyse des données radar qui n'était pas correcte.
Pas précise.
Non, elle n'était pas correcte. L'interprétation qui a été faite, et pourtant Arecibo, il fait 300 mètres de diamètre. C'est ce qu'on peut faire de mieux sur Terre. Et l'analyse n'était pas correcte.
Et je crois que l'analyse là des ondes électriques avait fait supposer que l'épaisseur de la croûte était de l'ordre de 50 km.
On a des chiffres qui vont de 50 à 200 km.
Et donc c'est encore controversé.
Alors je peux vous donner les derniers résultats qui sont en cours. Nous n'avons pas d'accéléromètre absolu sur la sonde Cassini. Un accéléromètre absolu, c'est un dispositif qui permet de mesurer les variations du champ de gravitation avec une précision considérable. Sur Terre, nous avons des dispositifs qui ont été utilisés pour deux satellites jumeaux qu'on appelle tandem, qui se suivent. Il y a des accéléromètres absolus qui sont sur ces deux objets. Ils permettent de déterminer le niveau de l'aquifère dans le sous-continent indien à 20 cm. 20 cm près. Vous imaginez, ces satellites ont été conçus pour faire de la relativité générale, pour déterminer le potentiel gravitationnel de la Terre. Et une des applications indirectes, c'est cette découverte donc du mouvement de l'aquifère dans le sous-continent indien. Eh bien, nous n'avons pas de tel dispositif sur Cassini. L'ONERA souhaiterait qu'on ait...
On n'y avait pas pensé ou c'était une question d'argent ?
On n'avait pas la technologie. L'ONERA a développé maintenant des systèmes extrêmement sophistiqués qui permettent de mesurer 10-15 G, mais nous ne les avions pas à l'époque. D'autre part, on pensait que par orbitographie, on arriverait à suivre suffisamment bien la trajectoire de la sonde pour déterminer ce qu'on appelle les coefficients d'expansion du potentiel gravitationnel, en particulier le fameux coefficient d'IK2. et nous n'aurons une indication sur l'épaisseur de la croûte que lorsque K2 sera connu à environ 10% près. Nous sommes à 27% actuellement. Donc nous espérons qu'à la fin de la mission, nous pourrons nous rapprocher de la surface de la planète pour faire quelques mesures supplémentaires uniquement liées à la détermination de ce coefficient K2. Actuellement, nous ne pouvons pas descendre plus bas que 1000 km parce que l'atmosphère résiduelle est tellement importante que nous détruirions le satellite.
Sur Terre, il serait freiné.
Vous savez qu'on descend à 280 km, quelque chose comme ça. Dès que vous descendez plus bas que 280 km, vous avez un freinage considérable, vous avez une destruction d'une partie du satellite. Et donc là, c'est 1000 km. On a eu une manip, on est descendu à 940 et on nous a dit, on verra à partir de 2017 ce qu'on peut faire pour descendre plus bas, mesurer K2 avec une meilleure précision.
Et vous avez parlé aussi d'Europe, là. Est-ce qu'on connaît l'épaisseur de la croûte maintenant ? Non ?
Écoutez, la sonde qui a été retenue, donc ça n'a pas été la sonde qui va sur Titan, c'est une sonde pour aller sur, autour d'Europe. Puis il y a un perforateur qui est prévu. On pense que c'est de l'ordre de 200 km.
Ah, tant que ça, je croyais que c'était beaucoup moins. Non,
ce serait de l'ordre de 200 km.
Alors, ou c'est peut-être variable suivant les endroits. Comme il y a
c'est possible aussi que ce soit comme la croûte oui. que l'on a dans l'Arctique, hein, où vous avez des énormes blocs et puis d'autres qui sont beaucoup plus minces. Bon, moi, j'ai une culture de radariste maintenant. J'aurais beaucoup plus cru à des mesures radar, comme celles qui sont faites dans l'Antarctique. Vous prenez un radar en bande C, vous descendez à des centaines de mètres de profondeur. Vous prenez un radar à beaucoup plus basse fréquence, vous descendez à 4 km, 5 km de profondeur. Donc vous voyez la couche liquide et l'interface entre la couche solide et la couche liquide. Ça n'est pas ce qui a été retenu pour l'instant. C'est vraiment un perforateur.
Bah, de toute façon, ça serait plus épais que 4 km.
Ce serait plus épais.
Donc l'appareil ne marche pas.
Ben, il faudrait descendre à des longueurs d'onde beaucoup plus grandes pour pouvoir aller en profondeur.
Bien, je vous remercie.
Oui, bonjour. Vous avez parlé tout à l'heure de 150 000 ORS spectrales dans la nébuleuse d'Orion. J'ai pas vu c'est sur tout le spectre ou sur une plage particulière ?
Non, c'est sur une toute petite partie du spectre.
Qui est dans l'infrarouge ou qui est ?
C'est en submillimétrique, oui. Avec l'instrument hétérodyne. On a une résolution d'environ 100 millions, hein, en lambda sur delta lambda.
Oui.
Et nous couvrons à peu près, j'aurais dit, sur la 120 gigahertz.
D'accord.
Et nous avons une bande complète qui va de 60 microns à 500 microns.
Voilà.
C'est-à-dire que nous allons avoir des millions de raies quand on va faire l'analyse complète de ces résultats. Oui.
Ce sont des signatures, des raies spectrales. Ça ne veut pas dire qu'il y a des millions de molécules. Hein. Ce sont des états de transition différents.
C'est pour certaines molécules, il y a beaucoup de raies qui viennent. Le formiate de méthyle, il nous donne énormément de raies.
Voilà,
vous en avez d'autres qui en donnent très très peu.
D'accord.
Si vous prenez la raie de C+, vous avez une transition à 1907 GHz et c'est tout. Vous n'en avez pas plus, 158 microns. Si vous prenez l'oxygène, vous avez deux transitions, une à 220. Si vous prenez l'azote ionisé, c'est pareil, vous avez deux transitions. Mais vous avez d'autres molécules pour lesquelles le spectre de rotation ou de revibration est très très riche. Et donc, il faut modéliser l'émission de ces molécules, les soustraire de ce que vous voyez, de ce que je vous ai montré, et ensuite, vous voyez qu'il apparaît des transitions plus faibles en très grand nombre dans l'analyse des données. Donc, on a pour des décennies de travail devant.
Oui.
Actuellement, nous avions une réunion les 18 et 19 janvier, 600 publications ont été effectuées avec des données Herschel depuis le lancement. On estime avec ce qui a été acquis, qu'il y a 2000 publications au minimum qui sont à prévoir pour l'ensemble de la science venant de ce satellite. Pour Cassini, on est à peu près 1200-1300 pour une analyse qui a commencé en 2005 et qui donc se poursuit actuellement.
Oui, j'ai vu des raies de l'eau dans le spectre. C'est des raies atmosphériques ou c'est des...
Les...
Des raies de l'eau, H2O.
Non, non, ce sont des raies du milieu interstellaire.
C'est des raies de... C'est de l'eau, interstellaire.
L'eau a un moment dipolaire électrique très fort, hein, puisque le barycentre des masses et le barycentre des charges électriques n'est pas du tout le même. Vous avez un moment dipolaire qui fait que la transition à 557 GHz, la transition dite 1.0, elle est extrêmement intense, et dans l'atmosphère de la Terre, elle est tellement intense qu'on ne peut pas observer sur plus de 20 gigas autour de 557, tellement cette molécule, elle n'a pas à être si abondante que ça, mais elle a une intensité d'oscillateur tellement grande qu'elle absorbe tout le rayonnement sur plus de 20 gigas de bande. Et même si vous allez dans un site exceptionnel comme l'Antarctique, comme le plateau de Chajnantor, là pour les radiotélescopes ALMA, vous ne pouvez pas observer ces transitions directement. Vous êtes obligé de vous être à côté des bandes. Donc il faut au moins un ballon stratosphérique à 40 km d'altitude, ou bien un satellite à des centaines de kilomètres d'altitude.
Merci. J'avais une deuxième question. Vous avez parlé des filaments, du rôle des filaments dans la formation des étoiles. Est-ce qu'on a une idée sur la nature du filament? C'est un filament de matière? C'est magnétique?
Que la matière s'agglomère autour de lignes de champ magnétique. Et qu'on a effectivement à certains endroits des spirales où on voit un peu comme une queue de cochon, quoi, avec des lignes de champ magnétique qui se sont enroulées. On mesure ce champ magnétique. On est capable de mesurer par effet Zeeman. On a une idée donc du champ entre ces étoiles qui se sont produites, mais la matière elle est déjà sous une force préstellaire, si vous voulez, hein. C'est vraiment des globules, quoi, qui se sont formés dans cette... Alors nous avons une grande conférence qui est prévue en octobre prochain, où l'ensemble des résultats de Herschel, puisqu'on aura fini l'hélium l'ensemble des résultats d'Herschel seront présentés, comme sont présentés cette semaine les résultats de Planck en Hollande à l'ESSEC.
Je vous remercie.
Moi, je voulais vous parler des astéroïdes. Vous avez parlé de Apophis tout à l'heure, donc il fait 387 mètres de diamètre et 4,7 milliards de tonnes. Si à la place de Apophis était passé Lutetia, qui doit faire, je crois, 4 fois plus grand, puisqu'il est à 130 km de diamètre, bon, il est peut-être 4 fois plus lourd.
Il est beaucoup plus, puisque vous passez de 300 et quelques mètres à 130 km.
Oui, ah oui, c'est encore...
Ça veut dire, c'est 130 multiplié par 400 au cube.
D'accord.
Ça veut dire donc 64 millions de fois plus lourd.
Alors, si cet astéroïde était passé à 28 000 km de la Terre, est-ce qu'on n'aurait pas pu craindre le pire, là?
Si.
Parce que...
Ce que j'ai voulu vous traduire, c'est un peu cette prise de conscience actuellement que tous les 1000 ans, nous pouvons avoir un impact du type météore-cratère, et que les objets qui sont tout près de nous, nous n'avons pas eu la capacité de tous les suivre, de tous les observer. C'est en train de se mettre en place. C'est en train de se mettre en place. Et nous avons besoin, nous, astronomes, avons besoin des astronomes amateurs, parce que le ciel est tellement immense à couvrir que vous avez beau avoir des programmes d'observation automatique, vous prenez une image d'une grande région du ciel, vous en prenez une un jour après, deux jours après, trois jours après, vous avez un logiciel qui vous permet de soustraire une carte de l'autre, et vous voyez donc si un objet s'est déplacé, si un objet a changé de magnitude visible d'une nuit à l'autre. C'est ainsi qu'on fait les découvertes de ces objets. C'est comme ça que les deux comètes que l'on va voir d'ici la fin de l'année ont été découvertes récemment par le mouvement d'un objet qui est presque comme une étoile, mais qui se déplace beaucoup plus rapidement qu'une étoile. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut prendre, bon, il ne faut pas avoir trop peur, mais c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux, effectivement. Enfin, moi, je ne serai plus là en 2028, hein, mais certains d'entre vous seront encore là. Et ben, vous en entendrez parler, quoi, certainement.
Merci.
Là, passons aux états. Qu'est-ce que fera exactement ?
Là.
Passons aux états où vous êtes.
Alors, la sonde Rosetta, elle va donc, elle se rapproche au jour d'aujourd'hui du noyau cométaire. On n'a plus d'autres astéroïdes, on a Eustace, on a Lutetia. On se rapproche du noyau cométaire. Nous étions à la dernière réunion, puis on en a eu l'occasion dans 3 semaines en Californie. Nous étions à 3,7 unités astronomiques du Soleil. Donc, ça veut dire un flux qui est tellement faible que comme nous n'avons pas de réacteur nucléaire à bord, nous avons des panneaux solaires, nous n'avons que des fonctions minimums qui ont été maintenues sous tension. À partir de juillet prochain, 2014, on réactive l'ensemble des instruments, on se sera rapproché à 1,6 unités astronomiques du Soleil, et on va commencer à graviter autour du noyau cométaire. Et alors, donc on a toute une phase où malheureusement la gravité de Churyumov-Gerasimenko n'est pas suffisante pour qu'on puisse vraiment faire des orbites circulaires. On avait pensé à un moment qu'on se rapprocherait à 2 km de la surface du noyau cométaire. Et le risque a été considéré comme trop grand parce que ce noyau, c'est une patate. C'est une patate. Il suffit que vous ayez un pic. Imaginez que la muraille de Chine soit plus grande qu'elle n'est actuellement et que cette muraille de Chine, elle n'a pas beaucoup changé le potentiel gravitationnel de la Terre, mais si vous avez un objet qui passe très près, boum, hein, et ce serait catastrophique, évidemment. Donc la phase d'approche est extrêmement méticuleuse. On commence à faire des cartes depuis 1000 km de distance du noyau cométaire pour essayer de connaître mieux la topologie de l'objet et ensuite s'en rapprocher au fur et à mesure jusqu'à donc, octobre 2014. Et là, on a pris un langage un peu particulier, on parle d'un squelette avec des bones, d'un squelette avec des os, où on va avoir des portions de trajectoire qui se rapprochent de plus en plus, mais ce n'est pas une orbite circulaire, c'est pas une... L'orbite circulaire n'est pas ça. Le potentiel gravitationnel de cette pomme de terre, quoi, imaginez une binge, eh bien, c'est pas ça. Donc, on ne peut pas se rapprocher trop près du. Il faut qu'on reste relativement éloigné et qu'on passe en balistique, puis qu'on revienne dessus. Autrement dit, on est une orbitographie extrêmement bien maîtrisée. Alors, il y a une sonde qui va atterrir sur le noyau.
Ah, une partie,
il y en a une partie qui s'appelle Philae, qui va atterrir sur le noyau. Et là aussi, c'est un tour de force. Les chances de réussite sont estimées à 50%. Parce que...
C'est comme ce qu'avaient fait les Japonais.
Les Japonais ont fait ça pour Hayabusa. Effectivement, ils ont récupéré un petit peu d'échantillons, puis ils ont eu un gros pépin avec la sonde. Et ils en ont récupéré un tout petit peu de particules. Mais enfin, c'était un tour de force aussi. La sonde Philae, imaginez qu'elle tombe dans une crevasse, imaginez qu'elle tombe sur un plan incliné, c'est des choses qui sont difficiles à maîtriser pour l'instant.
Et le but, c'est de faire des analyses in situ.
Alors le but, il y a une analyse in situ avec un spectro de masse, il y a un radar très basse fréquence, 95 mégas, qui est prévu pour faire de la tomographie du noyau, c'est-à-dire émettre un rayonnement qui passe au travers de la matière du noyau et qui est reçu par la sonde pendant qu'elle tourne autour. Mais là, on l'aura mise un peu... C'est presque une radiographie. Alors, ce qui est difficile, c'est qu'on a un seul radar. Sur Terre, on aime bien faire la radiographie, mais avec deux, ce qu'on appelle un radar bimodal, de façon à faire étudier la trajectoire des différentes ondes, des ondes qui passent dans les différents milieux qu'ils traversent. Donc vous verrez, ce sera intéressant cette phase. Là aussi, je crois que l'Europe, vous l'avez vu avec Lugin, c'est là, parfaitement maîtrisé cet atterrissage. Je crois que l'Europe a, de ce point de vue, des réussites à son actif qui sont remarquables. Entre Planck et puis Huygens et Cassini, je pense que nos scientifiques, nos ingénieurs, nos grands ingénieurs, nos industriels ont permis à l'Europe d'être au meilleur niveau pour les sondes spatiales.
Et qu'est-ce qui est prévu pour la sonde ? Quelle est la chose de prévu ?
Alors là, je travaille sur une sonde qui sera lancée en 2028, qui s'appelle l'instrument CSWI, sur une sonde qui s'appelle JUICE. Jupiter ISS.
Pour l'Europe, je
crois. C'est l'Europe qui est le maître d'œuvre de cette sonde.
Pour Jupiter.
Il y a des sondes marsiques, oui, c'est pour Jupiter, et puis les lunes autour de Jupiter. Pour ce qui concerne les États-Unis, là aussi, il y a Juno qui va arriver en 2017 autour de Jupiter. C'est le programme martien qui absorbe la plus grande partie des budgets. Il y a un transfert de budget de la NASA vers des firmes privées. Si vous voulez faire un vol, vous pouvez commencer à penser à un vol en fusée vers 2018-2019, moyennant quelques millions de dollars pour des firmes privées. Il y a même des firmes qui ont demandé à pouvoir récupérer des minéraux, des matériaux sur les astéroïdes. Donc d'envoyer une sonde, de récupérer une partie de thorium, de matériaux, et de le ramener sur Terre. Est-ce que c'est économiquement viable ? Ce qui est quand même clair, c'est qu'il y a un changement d'optique. Vous l'avez vu avec la navette, avec l'abandon du programme de la navette, une privatisation des vols. C'est quelque chose, c'est lanceurs privés qui sont en fait depuis le bord de la mer, là aussi. On sent qu'il y a un certain désengagement de cette fameuse course qui avait démarré avec Sputnik et puis avec l'homme sur la Lune. Un certain désengagement. C'est pas grand-chose qu'on puisse y faire.
Je voudrais poser une question d'un alphabète parce que je ne connais pas grand-chose à la question et même rien. Est-ce qu'on soupçonne un champ magnétique dans les objets ? Enfin, je veux dire, Titan, et, etc. Alors,
pour Titan, nous n'avons pas d'évidence de champ magnétique. Il y a plusieurs lunes qui ont, je vous ai mentionné tout à l'heure, effectivement, Europe. Europe, c'est par le champ magnétique que l'on a la certitude qu'il y a de l'eau salée sous la couche de glace de l'Europe. Mais il y en a très très peu qui ont un champ magnétique résiduel. Io a vraisemblablement un champ magnétique et on a un flux de particules absolument considérable entre Io et Jupiter, ce qui est une des grandes difficultés de la mission JUICE. 2028, c'est le durcissement des composants qu'on va mettre à bord des sondes, parce que là, nous venons de perdre plusieurs satellites, Corot en particulier, le Soleil étant très actif, les rayons cosmiques ont créé des secondaires au niveau des satellites qui ont détruit la lumière du satellite.
Alors, j'ai une petite question mécanique. Tout à l'heure, pour Apophis, vous avez dit que Herschel l'avait observé, donc on redétermine le diamètre. Avec une certaine densité, on réévalue la masse. Mais si on ne l'avait pas observé, de toute façon, en frôlant la Terre, sa trajectoire est déviée. Et par rapport aux prédictions et par rapport aux observations, on aurait pu aussi déterminer que la masse n'était pas celle qu'on imaginait. Non ?
En fait, la partie la plus originale des observations de Herschel, c'est que l'albédo était erroné de presque 20%. Et si vous ne connaissez pas bien l'albédo, eh bien, vous allez avoir une émissivité que vous mesurez, mais vous allez attribuer une masse qui est erronée par rapport à ce que vous avez observé. Et donc, il faut que l'albédo, c'est-à-dire la partie d'énergie qui est réfléchie, qui est rediffusée par la sonde, soit bien connue. C'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, quand on va aller le peindre en noir et en blanc, si on met du gris au lieu de mettre du noir, eh bien, la réflexivité ne sera pas tout à fait la même. Quoi. Et pour un diamètre donné, vous n'aurez pas la bonne réflexivité. Si vous avez la même réflexivité, c'est le diamètre qui doit être changé.
Oui.
Donc, c'est ce qui s'est passé là pour
d'accord, donc, sur la révélation du diamètre.
Et maintenant, il faut que les dynamiciens célestes soient capables de calculer la nouvelle trajectoire que l'on va avoir avec cet effet d'illumination par le Soleil pendant les 15-16 ans qui nous séparent de 2028. C'est un effet très particulier qui avait été découvert par un savant russe, que effectivement vous aviez une modification de la trajectoire liée à l'albédo, à la couleur de l'objet qui était illuminé par le Soleil.
Oui, mais la masse aussi joue.
Alors la masse, elle joue bien sûr, mais en principe, si vous prenez les lois de Newton, la masse, elle n'est pas, elle joue pour l'énergie que vous allez avoir. Les perturbations qui sont amenées par les autres planètes, elles dépendent vraiment de la trajectoire que vous allez avoir à un instant donné, de la distance que vous allez avoir. Et c'est cette distance qui va être modifiée par cet effet d'éclairement solaire, plus que la masse.
D'accord. Bien. On va peut-être arrêter ici. Voilà, merci encore. Et puis, merci beaucoup, parce que au niveau des informations, on s'aperçoit que de choses qu'on savait il y a 20 ans sont plus d'actualité, des choses d'il y a 10 ans presque plus, et que finalement, tout se renouvelle tout le temps et on est toujours jeune. Donc, vous parliez de 2028, à mon avis, en 2028, on sera encore là. Voilà, merci beaucoup.
J'arrive du Vietnam. J'arrive du Vietnam, où on est en train de monter un master à space et applications dans une nouvelle université franco-vietnamienne à Hanoï. Et donc, j'étais avec une dizaine de jeunes là, qui vont préparer une thèse en co-tutelle en France d'ici quelques mois maintenant. Et ces jeunes sont venus me voir, ils étaient absolument fabuleux. Des garçons, deux filles. Et ils me disent, mais monsieur Antonin, vous avez 68 ans. Pourquoi est-ce que vous êtes encore passionné? On a 35 ans d'observation devant nous, donc c'est vous qui les ferez, c'est vous qui ferez l'analyse. Mais sur les sondes dont je vous ai parlé, on a 5 générations d'astronomes qui sont présents. Donc il y a un passage du flambeau qui se fait. Comme je vous le disais, si la même chose se faisait avec les hommes politiques, ce serait quand même plus agréable pour nous tous. Bonne soirée à tous.
Bonne soirée, merci.